Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission, nous avons décidé d'aborder un sujet qui est d'actualité, mais pas forcément sous l'angle de l'actualité. C'est la Coupe du Monde 2022, à travers le jeu, les enjeux et surtout les relations entre le sport et la politique, dont on a vu qu'ils n'avaient jamais été aussi présentes que dans la préparation de cette Coupe du Monde. Pour évoquer ce sujet dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Enimoulaye. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes également autrice, Un rêve, deux rives aux éditions Slatkin. Et je sais, Nadia, que vous suivez cette Coupe du Monde, mais pas uniquement sous l'angle du jeu. Et j'aimerais vous poser une première question sur, finalement, est-ce qu'on peut dire que le jeu a pris le dessus sur les polémiques et que maintenant que la compétition est lancée, on voit bien que finalement, cette compétition, elle se passe dans de bonnes conditions. L'organisation semble faire face à toutes les situations. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est beaucoup de bruit pour rien, les polémiques qu'il y a eu pendant des mois, voire même des années ?
Oui, c'est un peu l'impression que j'ai quand même. Et notamment, j'ai eu le sentiment que les deux premiers matchs, et notamment le match en fait de l'Arabie Saoudite contre... alors, c'était quelle équipe
L'Argentine.
Qui a battu l'Argentine, pardon.
Oui, absolument.
L'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, j'ai senti qu'il y avait eu un petit point de bascule parce que c'était tellement étonnant, c'était tellement la surprise que tous les bons footballeurs en fait attendent qu'il se passe dans ce genre de compétition, que ça a un peu mis de côté les problématiques liées notamment au boycott, aux défenses des minorités, à la question de la main-d'œuvre ouvrière et des morts qu'il y a régulièrement sur ces chantiers au Qatar et au Moyen-Orient en général.
Alors, c'est vrai qu'il y avait des raisons de se poser des questions. Mais c'est vrai que ce qui a été étonnant, c'est que presque 10 ans après le choix du Qatar, il y ait, dans les quelques mois qui précèdent, une campagne un peu d'appel au boycott ou de critique. Bon, alors même que les stades étaient construits et qu'on était à quelques semaines, à quelques mois du démarrage de cette grande compétition.
Oui, mais je pense qu'effectivement, ça illustre un peu les contradictions que tous les États peuvent montrer, et à commencer par les États occidentaux. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde a été attribuée en 2010. On sait très bien, apparemment, que Nicolas Sarkozy, qui était donc aux commandes, a beaucoup fait de lobbying, certainement, pour que le Qatar décroche cette Coupe. Et puis, 10 ans après, plus de 10 ans après, on s'émeut, on fait des cris d'orfraie par rapport aux questions des minorités, etc. Donc, on voit bien que là, on est au cœur des contradictions, finalement, qui font nos États occidentaux. Hein. Moi, je ne suis pas partisane d'une vision où, schématique où on aurait les gentils contre les méchants. Je pense que c'est extrêmement pauvre d'avoir ce genre de réflexion. Il y a des intérêts. Le Qatar est un pays, on nous dira ce qu'on veut, hein. Moi je ne suis pas dans un jugement moral, je me battue juste sur les faits. Le Qatar est un pays, par exemple, qui possède le PSG. Bon, on n'a pas parlé vraiment de boycott jusqu'ici. C'est un pays qui a mis en place un soft power, on dira ce qu'on en veut, mais il a mis en place ce soft power, Al Jazeera, de toute façon tout ça, ça...
Alors justement, on peut dire aussi que finalement, rappelons-le, le Qatar c'est un tout petit pays. Il y a 300 000 habitants avec des grands voisins coincés entre l'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite de l'autre, les Émirats Arabes Unis. Et finalement, le Qatar a misé sur le sport et en particulier sur l'organisation de compétitions. Il y a eu beaucoup de compétitions organisées au Qatar. Et évidemment, la Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition. Mais c'est une stratégie d'un petit pays qui veut se faire connaître à travers le sport pour aussi se créer un petit peu une notoriété et être protégé de ses puissants et grands voisins.
Absolument. En fait, le soft power, la définition, c'est tous les moyens non coercitifs qu'un État... Donc il n'a pas de moyens militaires à proprement parler, qui ne peut pas jouer dans la grande cour des puissances militaires telles que les États-Unis par exemple, sont tous les moyens qu'un État donc va mettre en place pour pouvoir asseoir une influence, j'allais dire une domination, mais le terme est un peu fort, mais en tout cas une influence internationale. Et le Qatar a compris très tôt que le sport était un enjeu important, que les médias étaient des enjeux importants. Et ce n'est pas un hasard, effectivement, si très tôt on a vu apparaître Al Jazeera, qui a été quand même un bouleversement dans le champ médiatique au lendemain du 11 septembre, sur la scène médiatique internationale, avec un autre regard. C'était un peu le regard, finalement, pour être un peu généraliste et un peu englobante, le regard du monde arabe
sur l'actualité,
et c'était extrêmement novateur, c'était inédit, on peut le dire, je pense. Et puis la question du sport avec l'achat du PSG, une visibilité en Occident, l'achat aussi de la constitution d'un patrimoine également en Europe. On sait très bien que les Qataris, mais pas que, achètent énormément de biens en Europe et notamment à Paris. Donc voilà, c'est un petit pays qui a eu une vision dont on voit aujourd'hui qu'elle n'a pas vraiment de limite, puisque quand même organiser la Coupe du Monde, qui est une compétition extrêmement influente, j'ai envie de dire, dans le domaine même des relations internationales, voire de la géopolitique, si on veut un peu exagérer, ce n'est quand même pas rien. C'est vraiment inédit, et je pense que là, on va voir les retombées hein, que vont avoir cette Coupe du Monde. Mais j'ai l'impression que, en tout cas politiquement, le Qatar est en train de réussir son pari. On a vu le tweet d'Emmanuel Macron, si je me trompe pas, dimanche soir, où en fait, il a encouragé le Qatar. Je pense que vous l'avez vu aussi.
Oui.
Et là, pour moi, ça, c'est quand même un signe très intéressant en termes de victoire politique.
Alors, de toute façon, c'est clair que pour tous les pays, l'organisation d'une Coupe du Monde, c'est un événement considérable, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est le plus grand événement planétaire.
Exactement.
L'événement le plus médiatisé. Celui qui mobilise des millions de personnes
sur tous les continents. Voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que là, pour le Qatar, c'est un changement de cap. Après, on va voir ce que ça va vraiment rapporter. Financièrement, je suis pas sûre qu'ils en attendent énormément de choses, parce qu'ils ont fait des investissements en conséquence, et c'est pas forcément...
200 milliards, c'est la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire.
Ah ben voilà, donc 200 milliards...
D'investissement, ils ont construit tous les stades, il y en avait pas, quasiment...
On va voir... quel va être le retour sur investissement, mais pour moi, l'enjeu est plutôt ailleurs qu'au niveau des moyens, puisque c'est un État qui est très riche. C'est plutôt un enjeu politique, et en termes de positionnement politique, comment ça va se jouer, ça va être très intéressant à observer, parce que derrière, il y a certainement un enjeu peut-être concurrentiel vis-à-vis de Dubaï. Je pense que le Qatar aimerait devenir un peu ce pôle... attractif au même titre que Dubaï l'est devenu ces 10-15 dernières années.
Alors on va revenir aussi vers le terrain de sport, mais toujours en lien avec des enjeux politiques visibles ou invisibles. Par exemple, il y a eu plusieurs phénomènes, plusieurs réactions d'équipes ou de joueurs qui ont été considérés comme des messages politiques. Par exemple, quand l'équipe d'Iran n'a pas chanté son hymne national, semble-t-il, en soutien avec les victimes de la répression sur les manifestations suite au mouvement initié par les femmes en Iran.
Oui, alors c'est sûr qu'on sait que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'événement le plus regardé au niveau mondial. Donc effectivement, quand il y a des revendications politiques, c'est vraiment la bonne occasion. Et là, c'est le contexte adéquat pour l'équipe iranienne, effectivement, au vu de ce qui se passe là-bas et de la répression féroce que subissent les Iraniens qui protestent, et les Iraniennes notamment. Après, est-ce que le foot est politique? Ça, c'est une autre question. Et là aussi, on est dans des contradictions perpétuelles, c'est-à-dire qu'on a la FIFA qui dit non, c'est pas politique. En même temps, moi, quand je regarde en France, la question du foot est extrêmement politique, ou en tout cas, elle est très politisée. On ne va pas revenir dessus, quoique ce serait intéressant, mais l'affaire Karim Benzema, j'ai envie de dire le feuilleton Karim Benzema, là, ce qui s'est passé avec la une de l'équipe qui dit en gros que les Bleus sont libérés parce que Benzema n'est plus là. Un article de presse qui est fondé sur des faits pas vraiment vérifiés, d'après ce que je sais. Peu de voix qui s'élèvent au niveau du collectif, à part un joueur, Tchouaméni, qui dit non, c'est faux, tout va bien. Et puis si on remonte l'affaire, enfin si on remonte cette affaire Benzema, on arrive à 2015, à Manuel Valls, qui dit clairement, de manière tout à fait, dans le plus grand des calmes, dans les médias, je ne veux pas de Benzema parce qu'il n'a pas un comportement exemplaire. Là, on voit bien la main du politique dans les affaires de la Fédération française de football. Noël Le Graët voulait reprendre Benzema en 2016 pour l'Euro. Mais sous les pressions manifestes de Manuel Valls, ça n'a pas été le cas. Donc vous voyez, on est toujours dans des contradictions, et puis selon que, qui l'on est, il y a une tolérance ou non. Donc c'est intéressant à observer.
Alors, ce qui est intéressant à observer aussi, c'est un certain nombre de gestes. Par exemple, le soutien visible de l'émir du Qatar à l'équipe saoudienne, quand on sait que les relations entre les deux voisins, les deux pays, étaient exécrables, puisque... jusqu'en 2021, l'Arabie Saoudite avait mis le Qatar sous blocus. Il avait essayé de mettre une pression diplomatique, économique sur ce pays. Et avec la victoire aussi saoudienne de l'équipe d'Arabie Saoudite sur l'Argentine, un des favoris de la compétition, il y a aussi des messages politiques. Cette victoire, elle a un retentissement, je ne vais pas dire aussi important que la victoire de l'Algérie sur l'Allemagne en 1982, quoique. Quoique.
Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, le foot d'apparence n'est pas politique, mais on voit bien que c'est un vecteur qui permet quand même de peut-être pacifier. Alors il faut voir quelle est la portée véritable, hein, parce que là, c'est quand même, ce sont des gestes un peu marketing, j'ai envie de dire. Mais effectivement, le foot est bien plus politique qu'on voudrait le faire penser. Donc on va voir comment cette Coupe du Monde peut rapprocher ou non l'Arabie Saoudite, le Qatar, effectivement, vu ce qui s'est passé les années précédentes avec ce fameux blocus, qui était une situation un peu compliquée, même intenable, parce qu'il y a beaucoup dans les deux pays, vous avez des gens qui ont de la famille, donc c'était très compliqué effectivement comme situation. Mais on va voir ce qui va se passer par la suite à ce niveau-là, effectivement.
Alors, il y a aussi une autre équipe qui est en train de marquer les esprits. C'est l'équipe du Maroc qui a battu la Belgique il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passerait si un pays africain remportait la Coupe du Monde ? Ça serait quel message que ça enverrait au monde, finalement ?
Ce serait une bonne question. C'est intéressant aussi de voir ça parce que c'est vrai qu'on parle de la victoire du Maroc et on pointe également le fait que ce sont beaucoup de binationaux. Ce sont des binationaux. L'entraîneur est un binational, si je me trompe pas.
Oui, Hervé Renard, rappelons-le, est un entraîneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite.
Un entraîneur français, exactement. Alors pourquoi je dis binationaux, c'est que forcément il y a des accointances et un attachement particulier quand on est franco-marocain, quand on est franco-algérien. C'était pareil pour l'Algérie avec Belmadi, qui est aussi un binational. L'Algérie qui a ouvert la voie sur ces questions de binationalité et de foot. Moi, je trouve que c'est intéressant justement parce que ça dit aussi les liens. On a presque envie de dire ce que l'Europe doit à l'Afrique, doit même au quartier populaire, par rapport à la réserve de joueurs talentueux qu'il y a dans ces équipes-là. Et bien évidemment, si un pays africain comme le Maroc gagnait la Coupe du Monde, ça serait un message exceptionnel, surtout pour dans le cadre d'une Coupe du Monde organisée par un pays arabe, première Coupe du Monde organisée par un pays arabe, je pense que ça serait quelque chose d'exceptionnel. Qui ne plairait forcément pas à tout le monde, mais quelque part, ça serait un acte aussi d'affranchissement du football africain. C'est peut-être ça qui est en train de se jouer aussi en creux, c'est-à-dire que moi, j'étais un peu sceptique hein, quand j'ai vu le boycott concernant le Qatar. Non pas qu'il n'y ait pas de choses à critiquer, hein, la question des ouvriers, pour moi, elle est importante et il ne faut pas fermer...
Les droits humains dessus. En général.
Les droits humains en général, de minorités, donc je pense qu'il ne faut pas fermer les droits dessus. Mais il faut aussi peut-être se féliciter qu'un pays comme le Qatar, où les droits de certaines minorités sont bafoués d'après ce qu'on peut voir, accepte d'embrasser une compétition pareille et peut-être nivelle son niveau de normes par le haut. Donc je pense qu'il faut plutôt voir les choses comme
voir le verre à moitié plein. Absolument. Que le verre à moitié vide.
Absolument, il faut se dire que le Qatar, en participant à ces heures de compétition, relève ses standards, relève sa législation et essaye de la mettre au niveau des pays occidentaux. Je parle sur la question des droits humains.
Merci beaucoup Nadia Elimoulay. Je rappelle que vous êtes journaliste et on a eu plaisir à vous écouter sur cette vision un petit peu décalée de la Coupe du Monde. On a un peu parlé des résultats sportifs, mais pas que. C'était pas le cœur du sujet, mais quand même le lien. Et c'était intéressant d'aborder le sujet sous cet angle-là entre le sport, la politique et ce grand événement international qui marque déjà les esprits et probablement qui va continuer à le faire dans les jours et les semaines qui viennent en fonction des résultats. On vous remercie Nadia d'avoir accepté notre invitation et puis donc je rappelle que vous êtes journaliste et qu'on a déjà eu le plaisir de vous inviter et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci,
avec plaisir. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», la deuxième partie de l'émission en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et on va continuer à parler de sport, de politique, de la Coupe du Monde 2022 avec mon second invité que j'ai le plaisir de vous présenter, Abdelkrim Branine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, également auteur d'un premier roman, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Le Petit Sultan aux éditions Zellige, et ça tombe bien puisque c'est un roman qui parle de l'univers du football.
Tout à fait, c'est un roman qui a comme toile de fond le monde du football, football français et même international, et dont le personnage principal est un Français héritier de l'immigration qui s'apprête à devenir qui est un grand espoir, un futur espoir annoncé comme une future star du football français et qui connaît quelques déboires donc après ça c'est une dimension un peu politique et à la fois sociale.
Alors de politique, il en est aussi question à l'occasion de cette Coupe du Monde. En particulier, on a énormément parlé de cette Coupe du Monde avant même qu'elle ait lieu, on a l'impression que depuis quelques semaines ou quelques mois, un certain nombre d'éditorialistes, de commentateurs ont découvert ou ont redécouvert que la Coupe du Monde aurait lieu cette année au Qatar.
Oui, alors c'est vrai que c'est... C'est à la fois surprenant, mais c'était un petit peu attendu. Donc toutes ces polémiques, ces histoires de boycott. Enfin, là, on a dépassé le boycott parce qu'à un moment, la question se posait, mais aucune équipe évidemment qualifiée pour la Coupe du Monde n'a boycotté un tel événement. Et c'est vrai qu'on a assisté à ce bal des éditorialistes et même des politiques, journalistes, etc., qui ont découvert que la Coupe du Monde avait lieu au Qatar.
Oui, rappelons qu'elle a été que le Qatar était désigné il y a une dizaine d'années déjà.
Voilà, une dizaine d'années, donc ça commence à remonter, ça fait un petit peu tard pour s'indigner. Et évidemment, on peut parler d'une indignation à géométrie variable, puisque, bon, même si le Qatar peut être critiquable, évidemment, sur certains sujets, à certains égards, il y a quand même ce que certains ont dénoncé, une forme d'hypocrisie, entre guillemets, occidentale, qui consiste à critiquer ce pays et ne pas en critiquer d'autres où ont lieu des compétitions du même calibre.
À commencer par la Russie de Vladimir Poutine, il y a 4 ans, où ça avait fait couler beaucoup moins d'encre.
On peut critiquer, tout le monde peut critiquer, on aurait pu critiquer des événements qui ont lieu aux États-Unis pour la politique internationale des États-Unis, la Chine ont eu lieu les jeux d'hiver, on peut toujours critiquer, mais ce qui est dérangeant évidemment, c'est quand on critique seulement un pays et pas les autres, voilà.
Alors, ce qui est assez flagrant depuis le début de la compétition, c'est que le jeu a repris le dessus sur les polémiques, sur le débat politique. Là, aujourd'hui, on commente les matchs, on parle des résultats. Et à ce sujet-là, on est quand même assez toujours interpellé par le fait que même dans cette grande compétition, et peut-être aussi parce que c'est la plus grande compétition sportive et très médiatisée, eh bien, y a quand même toujours des événements politiques au sein de cette compétition. On pense notamment à l'attitude des joueurs iraniens.
Oui, alors c'est vrai que c'était pareil, on se posait la question quoi, de savoir si les joueurs iraniens... Alors, c'est pas la première fois qu'ils envoyaient des signaux à l'intention du pouvoir iranien. On sait ce qui se passe à l'heure actuelle depuis quelques semaines, depuis même des mois en Iran. On peut dire que c'est particulièrement courageux, et là, au moins, ça ne sort pas de nulle part. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas réveillés du jour au lendemain. Ils ont eu une attitude qui est intéressante par rapport à ce qui se passe en propre pays, malgré les risques encourus, on imagine. Et c'est vrai que, notamment, ils ont décidé de ne pas chanter l'hymne iranien, alors que c'est vrai que les joueurs iraniens sont connus pour être particulièrement présents pendant leur hymne. Et c'est vrai que c'était, on voyait aussi sur leur visage et sur leur attitude qu'il y avait
un message politique.
Exactement, tout à fait, de protester contre ce qui se passe à l'heure actuelle dans leur pays.
Contre la répression et des manifestations notamment.
Tout à fait.
Alors, il y a aussi d'autres gestes politiques à forte connotation. On pense notamment à l'émir du Qatar qui porte ostensiblement l'écharpe de l'Arabie Saoudite et qui supporte l'équipe de l'Arabie Saoudite, alors qu'il y a encore quelques mois, l'Arabie Saoudite avait mis sous blocus le Qatar, donc les relations diplomatiques étaient extrêmement tendues. Et là, on a l'impression que c'est l'occasion de manifester une forme de réconciliation, notamment effectivement entre ces pays du Golfe qui étaient plutôt des relations tendues ces dernières années.
C'est vrai qu'après plusieurs années de tensions, on le sait, bon, ça reste assez récent, les deux pays, le Qatar et l'Arabie Saoudite, se sont réconciliés, mais on n'imaginait pas que ça irait entre guillemets aussi loin, même si on ne parle que du football, mais ce n'est jamais que du football, on le sait tous, c'est de la politique, c'est l'un des événements les plus suivis du monde. Et c'est vrai que l'émir du Qatar, c'était quelque chose d'assez marquant de voir comme ça encourager l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il y a quelque chose de sincère derrière ça. Je pense que le soutien est sincère. On l'a vu aussi, je crois, supporter avec une certaine ferveur l'équipe du Maroc aussi. On l'a vu, c'était assez marquant. Donc je pense qu'il y a pas de hasard. Il choisit vraiment les équipes qu'il a envie de supporter. Et derrière, il faut y voir à chaque fois, je pense, un message politique. Oui, tout à fait. Ouais.
Alors il choisit aussi des équipes qui sont en mesure de se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui est malheureusement plus le cas de l'équipe du Qatar, hein, qui sort dès le premier tour de la compétition. En revanche, il y a deux matchs qui ont fait beaucoup parler. Il y a la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine, qui est un des favoris, et encore plus récemment, le Maroc, qui écrase la Belgique 2-0. Et là aussi, ça envoie un message sur la hiérarchie des équipes, où on sait que pendant très longtemps, sur le plan sportif comme sur le plan économique d'ailleurs, il y avait une supériorité, en particulier des équipes européennes et de quelques équipes sud-américaines. Et là, on a l'impression que cette supériorité, elle est un peu battue en brèche.
C'est vrai qu'on a tendance à, plus les Coupes du Monde passent, à se dire il n'y a plus de petites équipes, mais quand même, on a déjà vu le Costa Rica prendre quand même une sacrée racle face à l'Espagne. Mais là, c'était absolument extraordinaire. L'Arabie Saoudite qui avait, lors d'un précédent mondial, pris, il me semble, 8 buts, je crois, face à l'Allemagne. C'était quand même assez terrible pour eux. Et là, ils ont fait un match absolument extraordinaire. Et petite perte au passage, ils sont entraînés par un entraîneur français, Hervé Renard,
double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d'Ivoire.
Extraordinaire ce que fait ce Français avec ses équipes nationales. Et face au grand Messi, quand même, le grand joueur de l'histoire, c'était absolument extraordinaire. Et le Maroc-Belgique avait une saveur particulière, évidemment, puisqu'on connaît l'importance de la diaspora marocaine en Belgique. Donc certains même parlent de derby. Il y a des joueurs d'origine marocaine en Belgique. Il y a des joueurs qui jouaient pour le Maroc, qui sont nés en Belgique, donc c'était absolument extraordinaire. Ça pourrait être comparable à un France-Algérie, par exemple. Et là, on a vu un match absolument héroïque des Marocains qui ont, ouais, on peut le dire, hein, qui ont nettement
battu. Ils ont dominé
2-0. Enfin, le match, il n'y a absolument aucune discussion sur l'issue du match et cette victoire du Maroc. Et c'est vrai qu'il y a, encore une fois, il y a une dimension politique extraordinaire dans cette confrontation, tout à fait.
Alors, il faut dire aussi, vous l'avez évoqué, que une partie de la réussite des équipes africaines, c'est lié aussi à cette double culture, puisque beaucoup de joueurs issus des équipes africaines, soit jouent dans les championnats européens, dans les grands championnats européens, sont parfois nés dans les pays européens et ont choisi de jouer ensuite pour l'équipe de leurs parents ou de leurs grands-parents, et avec effectivement aujourd'hui un certain succès.
Oui, ça fait c'est une tendance qui s'est accentuée depuis le vote d'une loi FIFA au début des années 2000 qui a permis à ces joueurs de jouer jusqu'à un certain âge de jouer. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est assez complexe, de jouer pour le pays d'origine de leurs parents. Ça va même plus loin puisqu'on sait que la France, voire même l'île de France en fait, est la première région représentée dans ce mondial avec, je crois, 37 joueurs nés. En Île-de-France, c'est absolument extraordinaire, complètement inédit dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et en effet, comme vous venez de le dire, un grand nombre d'entre eux ont choisi de jouer pour le pays d'origine de leurs parents. C'est le cas notamment du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, beaucoup d'équipes africaines. Ce sont des questions sur lesquelles je travaille depuis pas mal d'années. Ça pose de vraies questions, notamment par rapport à l'apport de la diaspora, et puis ensuite par rapport au modèle qu'on souhaite. C'est vrai que lorsqu'on se repose sur un pays en l'occurrence la France, pour récolter les fruits de la formation, on n'a pas des produits entre guillemets locaux. Donc je pense que c'est une réflexion qui sera menée de la part des sélections africaines en tout cas.
Bon, et on doit le dire, la victoire du Maroc a été très belle. Elle a été célébrée évidemment non seulement au Maroc évidemment et au Qatar, mais également dans beaucoup d'autres pays où il y a une diaspora marocaine, avec juste je dirais ces images de violence à Bruxelles et à Molenbeek où une minorité a jugé bon de ternir un petit peu la victoire marocaine avec des saccages et des brutalités un peu déplacées.
Oui, bon, ça c'est toujours triste. Hein. C'est arrivé lors de précédentes rencontres, notamment celles qui concernent des diasporas marocaines ou algériennes ou d'autres africaines. C'est toujours terrible. Hein. Je pense que les premiers concernés, c'est-à-dire les Marocains, les joueurs de la sélection marocaine, sont tout à fait peinés. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont lancé des appels sur les réseaux sociaux. Voilà, pour dire qu'il faut
que le football c'est une fête, et que exprimer sa joie c'est normal, mais que le faire de manière violente, en saccageant ou en abîmant des voitures, etc., c'est pas acceptable.
C'est absolument terrible. On a toujours des gens un peu, je vais pas dire mal intentionnés, qui profitent un petit peu de cette ferveur.
De ces événements festifs, il y a beaucoup de monde pour se défouler.
Pour se défouler, c'est exactement ça, tout à fait.
Alors on l'a dit, le football c'est une fête, et là c'est vrai que c'est le premier événement, on peut le dire, c'est le premier événement sportif planétaire. Hein, c'est
tout à fait, bien sûr, de loin.
Alors on essaye de réfléchir et on se disait qu'est-ce que ça dirait des rapports de force entre les nations du football si une équipe africaine allait en finale et voire même remporter la Coupe du Monde.
On peut
se projeter, parce que quand on voit le niveau que le Maroc a atteint dans son match face à la Belgique, on peut imaginer que cette équipe, elle peut aller très très loin dans la compétition. Et peut-être d'autres aussi d'ailleurs, d'autres équipes africaines, mais on a été impressionné.
On a vu des matchs assez... C'est vrai qu'on avait quelques doutes pour ceux qui suivent les sélections africaines sur ce qu'elles allaient faire durant cette Coupe du Monde. Le Maroc, en tout cas, même le premier match était très solide contre la Croatie. Deuxième match, exactement contre la Belgique. On a vu un match absolument fou entre le Cameroun et la Serbie. C'était absolument extraordinaire. Le Ghana a remporté une super victoire face à face à la Corée du Sud. Donc, en effet, on se dit que, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, on se pose la question de savoir ce qu'on pourrait dépasser les quarts de finale qui avaient été atteints par donc il y a quoi? Non, il y a le Cameroun, le Sénégal, je crois le Ghana qui avait atteint ce stade. Et oui, ça peut changer parce qu'en fait, prenons l'exemple par exemple du Brésil. Le Brésil a eu un impact à l'échelle mondiale, pas seulement, mais aussi grâce au football. Absolument. Le football a été un vecteur
de communication, de médiatisation, de notoriété de ce pays de façon extraordinaire.
Bien sûr, de connaître ce pays gigantesque en Amérique du Sud, c'est quelque chose. Toute proportion gardée, le Qatar opte aussi pour cette stratégie de soft power à travers. Par exemple, le Paris Saint-Germain, ou même ses équipes nationales au niveau du handball.
Et ça fonctionne, parce qu'il y a 10 ans, personne ne savait situer le Qatar sur la planète.
On sait maintenant, on reconnaît le drapeau du Qatar, etc. Donc ça fonctionne. Donc on imagine que si un pays africain, admettons comme le Maroc,
ou le Sénégal,
ou le Cameroun, voilà, il y a d'autres chances, a atteint les demi-finales, voire la finale, ça ne va pas tout changer, évidemment. Mais ça peut avoir un impact, bien sûr, un impact géopolitique, même, je dirais. Tout à fait.
Et c'était un petit peu le sujet de notre émission, et on a pu mesurer à travers nos échanges et les exemples à quel point le sport et la politique, et en particulier cet événement qui est la Coupe du Monde, avaient effectivement des impacts et étaient aussi l'objet de débats. Âpre, aussi âpre finalement que les débats sur le résultat entre les équipes.
Ah oui, il ne faut pas sous-estimer. C'est du sport, le sport c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais il ne faut jamais sous-estimer les retombées économiques, les retombées politiques d'un grand événement sportif comme la Coupe du Monde de football, tout à fait.
Merci beaucoup Abdelkrim Branin d'avoir accepté notre invitation dans l'émission. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur d'un premier roman, Le Petit Sultan, aux éditions Zellige. Et on a eu plaisir à écouter vos interventions et on vous remercie pour cette première invitation qui en appellera peut-être d'autres. Et donc on se dit à très bientôt.
Avec plaisir.
Et bonne Coupe du Monde, du coup, à tous les supporters et à celles et ceux qui suivent les matchs presque tous les jours.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.